Interview.
1 du jour.
Bonjour, ici Yves et c'est l'heure de l'interview sur RDIWA. Vous pouvez écouter l'émission sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc Andiwa. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Benjamin Stahl. Bonjour.
Bonjour.
Benjamin, comment vas-tu ?
Ça va, merci. Super.
Je t'avais reçu récemment, il me semble, il y a quelques semaines déjà.
Il n'y a pas longtemps du tout. On a fait un petit point sur la trame exacte.
Oui. Et tu nous reviens donc pour relancer un peu cet appel à la solidarité et à l'adresse en particulier des citoyens autour des fêtes de Noël qui permettraient ensuite d'assurer cette continuité d'accueil de personnes en grande précarité notamment.
Oui, tout à fait, exactement. La dernière fois, on avait fait un peu le point. On avait expliqué que... On était arrivé à la trame à avoir 2 hébergements sur 10 de façon assez stabilisée, là, qui permet d'accueillir 6-7 personnes en galère administrative. Et aujourd'hui, on a donc ces hébergements. Un qu'on avait financé grâce à des prêts solidaires, un autre qu'on nous a mis à disposition gratuitement. Et aujourd'hui, toutes ces personnes sont accueillies dans l'appartement. Et l'enjeu, c'est de maintenir, de pérenniser l'accueil. Et donc, de pouvoir payer les charges de ces appartements.
Il y a eu récemment ce passage, justement, pour parler de ces remises en état de logement, grâce à votre équipe et aussi aux bénévoles qui agissent au sein de la trame. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui donc, de cette demande pour vous, la trame 26, sur ce soutien pour l'accueil ?
Ben, il se trouve qu'on a demandé il y a quelque temps au fisc, si on veut, aux impôts, le fait d'être reconnu d'intérêt général, et on l'a obtenu. Donc la trame est maintenant reconnue comme d'autres ONG d'intérêt général. Ça veut dire très concrètement que tout don qui va être fait à l'association, les donateurs peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 66% de leurs dons. Ce que font la plupart des ONG d'ailleurs, hein, c'est pas très original, mais on est très content de l'avoir. Donc si jamais vous décidez de donner 100 € à la trame, finalement, il y en aura 66 qui reviendront sous forme de crédit d'impôt.
Alors pour cette fin d'année, comment se procède justement cette captation, cet appel au don ?
Alors, tout simplement, on essaye de faire un peu un petit état des lieux de ce que peut donner, par exemple, quelqu'un qui donne 5 € par mois. Ça participera aux besoins essentiels d'une personne pour une journée. Nourriture, chauffage, électricité. Quelqu'un qui va donner 15 € par mois, ça va être dans les 2 à 3 nuits d'hébergement par mois. Quelqu'un qui va donner 100 €, alors là, ça va assurer la totalité des charges de vie courante d'une personne sur un mois. Donc l'idée pour nous... Dans l'idée de pérenniser un peu l'accueil, c'est de trouver des donateurs réguliers, même si c'est 5 €, 10 € par mois. Nous, ça nous donne de la visibilité, ça nous laisse un peu tranquille, de la tranquillité aussi sur l'année. On se dit, bon, pendant 6 mois, on est tranquille, on peut accueillir, on peut maintenir les hébergements, on peut maintenir l'accueil. Donc pour nous, il n'y a rien de plus précieux que les dons réguliers, disons mensuels. C'est pour ça qu'on fait cet appel à dons en fin d'année. C'est aussi une manière pour vous, éventuellement, de bien choisir où vous allez payer vos impôts, parce que les impôts que vous payez, que vous donnez à des ONG, les dons que vous faites à des ONG, finalement, c'est de l'impôt que vous ne paierez pas grâce aux 66% de crédit d'impôt.
On peut peut-être parler aussi de l'adresse actuelle, au 12 rue Émile Laurent. C'est un moyen de vous joindre ?
Oui, alors tous les mardis matins, le local est ouvert. Vous pouvez passer nous voir. Et sinon, vous trouverez aussi les numéros de téléphone sur le site internet de la trame 26. Et on vous expliquera ce qu'il en est. Passez nous voir, tu veux dire, pour
tout auditeur qui souhaiterait soutenir ou un soutien. Oui.
Le mardi matin de préférence, après les numéros de téléphone, l'email, ça marche très bien. Vous êtes bienvenus.
Que j'indiquerai sur la page de l'émission. Ouais. Et donc... L'assurer la continuité, c'est pour combien de personnes actuellement ?
Actuellement, c'est entre 6 et 7. Voilà, 3 personnes par appart. Il y a aussi une personne qui peut être hébergée chez l'habitant. Donc, on en est là.
Et est-ce qu'il y a, comment dire, une corrélation autour de la trame pour justement mener à bien cet accueil auprès de ces personnes ?
Une corrélation, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire d'autres associations qui œuvrent dans le même sens que vous, à qui vous prêtent main forte,
ouais,
par exemple.
On a pas mal de partenariats avec d'autres assos qui font de l'accueil aussi. Après, donc, je pense au CCAS, qui n'est pas une asso, hein, qui est un service public, mais quand même. Je pense à l'accueil de jour, je pense à Solia, la maison de famille, pension de famille. Donc, il y a pas mal d'autres assos qui font de l'accueil sur le territoire. Après, la particularité qu'on a, c'est que, en fait, on s'adresse à un public qui n'a pas le statut administratif, quoi, des personnes qui n'ont pas de papier. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide publique pour ces personnes-là. Donc, c'est pour ça qu'on repose surtout sur la citoyenneté, les dons citoyens et l'engagement des citoyens.
La question que je me pose par rapport à ces personnes donc, qui ne sont pas reconnues officiellement, comment pouvoir avancer avec elles pour pouvoir justement les intégrer ou de moins les soutenir à une nouvelle existence peut-être ?
Alors, on met en place quand même un accompagnement administratif et juridique pour ce qui concerne la régularisation, les titres de séjour. Ensuite, souvent, le temps de la régularisation dure des années et des années. Les personnes peuvent se retrouver dans une situation sans papier pendant 10 ans. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire ce laps de temps qui est interminable, un temps profitable pour les personnes. Alors c'est pour ça qu'on a développé des activités en restauration, en entretien d'espaces verts, pour que ce temps devienne un temps finalement profitable, quoi. Et qu'il ne soit pas un temps d'ennui, de démotivation, de dépression, évidemment. À force de rien faire, on ne va pas très bien, en général.
Et puis, surtout, il y a une mobilisation hein, de citoyens, d'habitants, qui sont là aussi pour soutenir, sans condition, hein, en plus.
Ouais, la condition, c'est de participer au projet de l'association. C'est-à-dire, le projet, c'est l'association, c'est une réunion de temps en temps, et puis c'est un projet collectif.
Est-ce qu'on peut peut-être estimer justement cet appel aux dons ? Est-ce qu'il y a, vous avez établi en quelque sorte un budget qui permette de gérer une personne lors de son séjour sur le territoire notamment, ou peut-être même de pouvoir s'y installer ?
Sur la globalité, l'asso, elle a besoin de 1 500 € par mois pour les besoins d'hébergement et de nourriture, de santé, de transport des personnes qu'on accompagne.
Il y a ce local, hein, au 12 rue
ouais,
Émile-Laurent,
ouais,
mais
sûr, ouais.
Est-ce
ouais,
qu'il
ouais.
y a d'autres événements auxquels vous êtes liés ou en partenariat avec d'autres structures qui permettent justement d'avoir ces contacts avec vous aussi sur le territoire ? Parce qu'il y a DIE, mais il y a également le DIWA. Est-ce que le DIWA est aussi partie prenante dans votre activité de la trame ?
Et ouais, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on on travaille avec d'autres assos qui sont aussi dans l'accueil et dans le lien social. Du coup, les popotes, bien sûr. Là, on va présenter le film de l'Abbé Pierre, par exemple, vendredi soir, qui passe au cinéma. Après, le 28 décembre, il y a le déjeuner solidaire de Noël, qui est fait avec les popotes, avec l'accueil de jour, avec la pension de famille et toutes les assos solidaires du DIWA. Ça, c'est le 28 décembre.
Ça aura lieu.
Alors, c'est une bonne question, je ne sais pas encore.
C'est encore à découvrir
voilà,
pour la suite. Mais est-ce qu'il y a un réel engagement de beaucoup de monde pour soutenir un peu votre démarche et votre, comment dire, votre assistance à ces personnes ? Et est-ce qu'il y a, en quelque sorte, un certain réconfort de le connaître, de le savoir ?
Nous, on trouve qu'on est sacrément bien suivis, qu'il y a un chouette engagement d'un paquet de bénévoles qui sont là dans l'accompagnement des personnes, qui nous aident pour tout type de demandes très concrètes. Hein. Faire un passeport avec l'ambassade de Intel, aller chercher une carte de sécu à Valence pour quelqu'un qui ne parle pas français, prendre des billets de covoiturage pour quelqu'un qui n'a pas de compte en banque. Donc il y a tout un paquet, il y a un certain nombre de bénévoles qui aident bien sur l'accompagnement comme ça, administratif. Puis il y en a d'autres qui donnent des cours de français aussi. On a aussi des bénévoles en cuisine, pour l'activité cuisine. Et on est assez bien suivi là-dessus, c'est chouette, ça fait une belle équipe de bénévoles. Et on essaye ouais, de passer des bons moments ensemble, ça sera pour la galette des rois la prochaine fois, si c'est pas pour le repas de Noël.
La trame accueil solidaire, c'est le maître mot hein, de l'association. Qu'est-ce qui vous a décidé justement de créer cette structure il y avait une nécessité pour vous de pouvoir opérer ainsi.
Et oui, parce que ce qu'on remarque quand même, c'est que les personnes qui se retrouvent sans titre de séjour, en fait, elles n'ont plus de solution. Pour se stabiliser, quoi, se retrouver en situation d'errance, voire à la rue, hein, on le voit bien dans les villes. Et donc, il n'y a aucune possibilité de projection dans ces situations-là, aucune possibilité de faire quelque chose de ses mains, de sa vie, de sa tête. Donc, on est dans une situation d'exclusion qui fait qu'empirer. Voilà, donc nous, on essaye d'offrir, avec toute l'équipe et puis avec les compagnons qu'on accueille, un lieu de vie, une façon de vivre qui soit agréable, qui soit valorisante, qui soit riche, quoi, tel que tout le monde le mérite.
La trame 26 existe depuis combien de temps ? Est-ce que vous avez pu déjà pérenniser en quelque sorte un lieu ou aussi certains accueils ?
Alors officiellement, l'asso en elle-même a 2 ans. Après, l'accueil s'est fait depuis plus longtemps dans le Diois. Et le lieu, ce sont des appartements et un local. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Et puis peut-être qu'un jour, on aura une magnifique ferme ou un beau château, on verra, suivant les possibilités du futur.
Et il existe dans le Diois le Rédard. Je ne sais pas si vous avez des contacts avec cette structure. Est-ce que vous êtes dans une certaine complémentarité de l'un et l'autre ?
Oui, tout à fait, tu as bien raison, parce que le Rédard, on se voit comme avec la Parallèle ou avec d'autres assos de Valence sur des événements solidaires, en général, ou militants. Et alors, eux s'occupent de personnes qui ont le statut de réfugiés, c'est-à-dire qui sont réfugiés statutaires, et donc qui ont le droit au travail, qui ont le droit à la santé, qui ont le droit à les mêmes droits que les Français, finalement, pratiquement. Et voilà.
Le Rédard ayant un contact aussi avec la préfecture de la Drôme, pour ces actions, hein.
Oui, les personnes qui obtiennent le statut de réfugié, c'est un statut qui est validé par la préfecture, ouais, effectivement. Ouais.
Alors, en quelque sorte, vous partez de rien, à part une bonne volonté. Comment s'est établi cette construction de la trame ? Est-ce qu'il y a un réel désir de solidarité et d'implication aussi de personnes sur cette structure qu'est la trame. Et d'ailleurs, tu parles de bénévoles, mais vous êtes combien pour justement mener à bien ce navire ?
Les motivations, je crois, parmi toutes, elles sont diverses et variées, mais je crois qu'au fond, c'est quand même un désir de justice face à un traitement souvent dégradant et inhumain de l'administration vis-à-vis de certaines personnes, du seul fait qu'elles soient étrangères, et encore plus si elles sont racisées, africaines ou autres, quoi. On remarque de plus en plus ça dans l'administration française. Et ensuite, combien on est ? On est 2 salariés, 26 heures par semaine, et il y a 6 personnes dans le CA qui sont très actives, et ensuite une 20aine de bénévoles qu'on voit quasiment toutes les semaines, ouais.
Il y a aussi des entreprises, puisque tout à l'heure tu parlais de cet aspect culinaire ou alors des espaces verts. Ce sont des possibilités pour certains d'entre eux, de ces personnes accueillies, à pouvoir exercer ou apprendre ou à s'initier à ces activités. Est-ce que cela prend corps avec le temps ? Il y a une certaine constance dans votre démarche ?
Ouais, alors ça prend forme petit à petit, l'activité espace vert. Ensuite, en hiver, on est quand même limité par le mauvais temps et puis le fait que les haies et les gazons ne poussent pas, évidemment. Donc, on essaie de mettre l'accent de plus en plus sur la cuisine, là. Et je pense que dans quelques mois, on viendra vous revoir avec un beau projet cuisine qu'on partagera à la radio.
Là, ce sont principalement ces deux activités, celle de la restauration ou celle du traitement des espaces verts. Est-ce que vous avez aussi envisagé d'autres secteurs d'activité qui ne puissent pas non plus empiéter sur le domaine professionnel existant ?
Oui, parce qu'il s'agit de pas empiéter, comme tu dis, sur le domaine concurrentiel, ouais, des entreprises quoi, en tant qu'association. Et ouais, on s'est questionné sur la ressourcerie, bien sûr, mais il y a déjà R-Trésor, donc c'est pris, a dit. La matériothèque, c'est pris aussi. Donc ce qui nous resterait dans le secteur du réemploi, c'est le recyclage de l'électroménager et l'électroportatif. Machine à laver, lave-vaisselle, visseuse, etc. Et ça, c'est un truc qui se fait beaucoup, de plus en plus dans les Emmaüs et que nous, on aimerait développer peut-être à terme. Ouais.
Est-ce que vous seriez en partenariat avec Emmaüs, justement, qui ont quand même une belle expérience dans ce domaine, et de voir peut-être créer en quelque sorte une annexe sur le DIWA?
Et oui, on est tellement partenaire qu'on est même engagé pour rentrer dans le réseau Emmaüs et pour devenir éventuellement une communauté Emmaüs. Donc on vous en parlera l'année prochaine quand ça sera plus abouti, plus avancé.
Il y a souvent des rendez-vous avec la trame et un public. Ce public aussi, est-il plein de motivation ou aussi peut-être de propositions à amener pour aider aussi?
Ouais, on remarque beaucoup d'envie, de volonté d'apporter des choses, de proposer. Il y a des personnes qui proposent des soins gratuits. Il y a un ostéopathe qui nous propose des séances gratuites aussi. Toutes sortes de corps professionnels s'investissent, effectivement. Ouais.
Il y avait, moi j'avais reçu il y a quelques années des personnes accueillies au sein du Rédard et qui justement préparaient un CAP soit de menuisier ou de boulangerie. Est-ce que vous, ça serait aussi pour vous le souhait de pouvoir aller dans cette direction malgré cette loi sur l'immigration là récemment en discussion et qui justement semble balayer cet aspect de la professionnalisation des personnes accueillies?
Alors les personnes accueillies, si elles ont le droit au séjour, elles peuvent suivre des formations. Malheureusement, celles qui sont accueillies chez nous n'ont pas l'autorisation de suivre des formations. Enfin, ce n'est pas interdit, mais les formations en alternance ne sont pas possibles puisqu'il faut un employeur. Et donc un employeur ne peut pas embaucher une personne sans titre de séjour. Donc les formations, c'est tout l'intérêt pour nous de rentrer chez Emmaüs, c'est qu'il y a des formations en interne qui ensuite peuvent être valorisées sur le secteur marchand.
Et est-ce que vous avez l'oreille de collectivités, de structures? Je ne parle pas de la préfecture, puisque je pense qu'elle n'a pas aucune action ou aucune perspective dans ce domaine. Mais est-ce que vous auriez le souhait d'avoir cette oreille qui permette justement de pouvoir prendre conscience des difficultés sur le terrain pour pouvoir accueillir ces personnes?
Alors, tu veux dire des oreilles dans les instances publiques?
Oui, dans les collectivités ou dans des structures qui ont cette activité autour des personnes immigrées.
Et oui, le plus on a de relais dans les institutions, le plus on a la bonne information pour réagir de la bonne manière face aux difficultés que rencontrent les personnes.
Mais par exemple, toi, Benjamin Stahl, qu'est-ce qui t'a amené à monter cette structure avec Pauline à l'époque pour pouvoir accueillir ces personnes? Ça te semblait évident?
Ouais, c'était une évidence. Du fait, alors Pauline, on n'a pas le même parcours, mais voilà, moi, c'est plutôt le fait d'avoir milité à la frontière. À la frontière briançonnaise, quoi. On voit bien que l'accueil d'urgence, il peut en exister. Il existe de l'accueil de jour, il existe de l'urgence, dans des conditions terribles, hein, et pas évidentes du tout. Mais ensuite, après l'urgence, qu'est-ce qui se passe après l'urgence? C'est là qu'il y a un vide à combler.
Et tout est à construire, en quelque sorte.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Et est-ce que, pour vous, ça prend petit à petit forme, quand même? Bon, il y a cet établissement de ces acquisitions ou de remise en état de logement, c'est déjà une belle avancée pour ces personnes. Mais est-ce que il y a en quelque sorte, on pourrait dire un engrenage ou un système qui puisse justement continuer dans cette lancée et de développer ainsi cette notion d'accueil et puis aussi d'activité pour beaucoup de personnes?
Oui, alors développer l'accueil, c'est OK, développer l'hébergement, ça pour l'instant, on est à peu près stabilisé. Et maintenant, c'est développer l'activité. pour les ressources, pour apporter des ressources à l'asso, et puis pour apporter une activité professionnalisante si possible aux personnes. Donc tout l'enjeu est là maintenant pour la fin de l'année 2024. On va essayer de développer les activités qui puisse avoir lieu tous les jours.
Il y a quelques années, à Vercheny, c'était constitué une acquisition d'une maison qui a été remise en état. Elle a été, semble-t-il, revendue par la suite. Quelle était sa destination ?
Eh ben, la maison d'Elisa, c'est des copains qui ont réussi avec leur association à racheter cette maison, il y a au mois de septembre dernier. Et c'est assez génial parce que maintenant, ils ont la maison. Et ils vont pouvoir recommencer l'accueil. Je parle un peu en leur nom, mais là, ils ont trouvé des financements pour développer l'accueil, pour prendre un salarié qui va faire un projet un peu un partenaire de la trame. Effectivement, ouais. Ouais.
Il y a une visibilité sur Internet pour vous découvrir aussi ?
Ouais, on a un site qui n'est pas du tout à jour.
Ah, mais une page qui permette, par exemple, d'annoncer des dates prochaines.
Non, on n'arrive pas à mettre à jour notre site. Donc, tout se passe par mailing list. Vous allez sur le site, vous inscrivez sur la lettre d'info et vous aurez toutes les infos de ce qu'on fait à la trame.
Très bien. Eh bien, Benjamin Stahl, merci beaucoup d'être venu nous annoncer donc cette campagne d'appel aux dons réguliers à destination des citoyens autour des fêtes de Noël et à permettre ainsi la continuité d'accueil des personnes en précarité.
Merci.
Et bonne fin de journée.
Merci de même.
Au revoir. Thank you.